Bretagne 5, écoutez la Bretagne. À voix haute, une émission de Meredith Ledez.
Bonjour, aujourd'hui dans À voix haute, je vous propose de découvrir Le nageur d'Aral, un roman de Louis Gral. Louis Gral est un écrivain breton, il vit dans le Finistère, il est poète-conteur et il livre avec ce nageur d'Aral publié à la Manufacture du Livre en 2020 un magnifique roman, mystérieux, sur les traces d'un plongeur mystérieusement noyé et qui a une histoire assez extraordinaire au sein du monastère de Landévennec. Je ne vous en dis pas plus, place à Louis Gral, le nageur d'Aral. Au fond de l'abri marin se tient retiré le monastère. Landévennec, du breton Lannes, ermitage, et Tévennec, lieu abrupt. En venant de Brest vers la presqu'île de Crozon, l'automobiliste le découvre un instant dans un virage. Cet instant trop bref, combien de fois l'ai-je vécu enfant puis adulte? Ce coude que forment la mer et la rivière Aulne, j'aurais voulu le franchir d'un trait tel un oiseau marin. Seul et silencieux, j'aurais volé vers le havre mystérieux à la silhouette épurée. Guidé par le reflet doré de ses pierres, je me serais posé à son pied, sur la pente du pré. Mais déjà la fenêtre se fermait et la voiture m'emportait vers d'autres rivages et j'oubliais. Parfois je m'y rendais en famille ou avec des amis. Le monastère se méritait car il fallait franchir le pont et rouler plusieurs kilomètres pour parvenir au promontoire et descendre la pente du chemin bitumé aboutissant au parking. L'entrée à pied sous la voûte des arbres, le silence lumineux à l'intérieur de l'abbatiale, la visite de la librairie me laissait insatisfait. J'aurais voulu ce plaisir pour moi tout seul. « Mais il est trop tard pour te faire moine », me disait malicieusement mon épouse. Cependant, l'idée qu'il n'est jamais trop tard s'insinua peu à peu en moi au fil des ans. Un soir de Noël, j'assistais en famille à une messe de minuit dans l'église du lieu saint. Un matin de nouvel an, j'accomplis une marche pour la paix dans les bois alentours. Puis je connus Luc, frère Luc, le moine poète. Puis j'oubliais de nouveau. Il y a 2 ans, frère Luc m'écrivit une lettre étrange qui réveilla mon semblant de vocation. « Peut-être, me disait-il, as-tu gardé souvenir du décès de cet homme qui avait créé une petite école de yole au passage à Rosnoen et qui s'était noyé en plongée. Viens à l'hôtellerie du monastère passer quelques jours, c'est important. Il me faut te raconter son histoire, j'en suis chargée par la communauté. » Il te sera difficile d'y croire, mais sache qu'elle est parfaitement vraie. C'est à moi qu'il revient de te révéler des faits qui datent de plus de 50 ans. Des faits que nous avons couverts d'un silence absolu jusqu'à présent. C'est à toi, et à toi seul, qu'il reviendra d'en prendre connaissance. Ici même où ils ont eu lieu. Viens, nous t'en prions. Rien que cela, j'ai dit oui, bien sûr. 1er février 2015. J'ai posé hier ma valise à Landévennec. Le frère hôtelier m'a guidé jusqu'à ma chambre. Mon vrai départ, c'est maintenant. Il est 4h50, c'est l'heure de vigile dans le monastère au bord de l'eau. C'est la première prière, celle qui dit le désir et l'attente de Dieu. Seul dans ma cellule, je ne dors pas. Je couche sur le papier ce que frère Luc m'a conté ce jour. Nos entretiens lui prennent de son temps conventuel, mais la communauté l'a autorisé à enfreindre la règle quotidienne. Pour 2 semaines, je suis devenu apprenti cénobite, pour écrire une vie comme le faisaient autrefois les moines chroniqueurs. Comme je m'y attendais, mon épouse ne m'a pas compris, bien sûr. On s'est disputé, mais je suis partie. Dans la nudité de ces murs, je transcris l'histoire d'un homme qui ne fut pas un saint, mais qui vécut ici une vie exemplaire. Il fait frais. J'ai enfilé une polaire. La fenêtre ouvre sur la forêt domaniale. Dans la nuit, je devine la masse sombre des gardiens de l'abbaye. L'homme qui y nageait cette nuit venait de très loin. Le chalutier l'avait abandonné à 5 000 au nord-est d'Ouessant. Les ordres du commandant avaient fusé, dominant les stridences du vent, et l'homme et le navire s'étaient séparés. Il n'y avait eu qu'un bref coup de projecteur, puis l'obscurité de nouveau. C'était le 12 novembre 1961. L'échelle de Beaufort indiquait 10. Comment, par quel miracle parvint-il jusqu'à Brest? Frère Luc ne peut pas me l'expliquer. Bien sûr, la mission avait été préparée lors du stage d'entraînement. Mais lorsque l'océan le prit, il fit un effort terrible pour ne pas défaillir. Il ressentit tout en même temps le froid du premier contact avec l'eau, l'éloignement rapide du navire, l'immensité de la nuit, et les vagues géantes qui soupesaient sa fragilité et la clameur du vent sur les feuillages de l'écume affaiblissant sa chair. La mort était à ses côtés, mais il était habitué à sa présence. Au lieu de l'épouvanter, elle le rendait mélancolique et réfléchi. L'opération avait été tant calculée, les cartes tant décryptées, qu'il en connaissait chaque détail. Il connaissait exactement sa position par rapport à l'île en forme de crabe, à peu de distance d'un rivage échancré dont la ligne puissante formait un lent arrondi. Il avait enregistré dans sa jeune mémoire les noms étrangers. Rocher de Porcal, phare du Stif, passage du Fromveur, pointe de Corsen. Il venait de loin, de très loin. Oui, un jour, il était arrivé ici même où j'écris son histoire, en nageant. Ce n'était pas un saint, non, loin de là, mais il l'était un peu devenu. 3 février 2015. J'ai marché au petit matin avec frère Luc en direction d'Argol. C'est étrange, m'a-t-il dit, de savoir qu'il a foulé cette route, lui le nageur, avant de venir frapper à notre porte. Le ciel était si bas qu'il semblait vouloir écraser le socle de la presqu'île, mais celle-ci tendait vers lui les oriflammes maigres de ses arbres et les sombres nuées redressaient leur vol pour s'abîmer au loin en mer. Le vent d'ouest nous poussait comme il avait poussé un jour Anton. Les algues de la nuit s'en allaient doucement devant nous, et le chemin se découvrait comme du sable sous nos pas. Ainsi qu'il l'avait fait, nous avons d'abord pris la direction du sud, puis nous avons fait demi-tour vers le monastère. Après la messe de 11 h, Luc m'a présenté au père abbé. C'est un homme de haute taille qui m'intimide un peu. Ensemble, nous avons parlé du projet. « Je vous remercie, monsieur, d'avoir répondu à notre demande. Vous la trouvez sans doute singulière. » Pas davantage, mon père, que la vie monastique qui exerce sur moi un attrait depuis longtemps. Votre proposition me donne simplement l'occasion de franchir le pas. J'espère être à la hauteur de votre espérance. Vous savez, je ne ferai que transcrire ce que frère Luc me confiera. Mais vous le ferez bien, je le sais. Anton a partagé notre vie durant 30 années. Et voici presque autant qu'il nous a quittés en 1991. Comme on avait décidé la communauté et mes 3 prédécesseurs, nous avons fait silence sur cette présence. Aujourd'hui, nous voulons que sa vie entre dans la lumière, au même titre que celle de notre saint fondateur. C'est pour cette raison que nous faisons appel à vous. Mais pourquoi ne pas le faire vous-même? Vous êtes laïque. Anton n'était pas moine, même s'il vécut comme s'il l'était. Il ne prononça jamais de vœux et nous avons respecté sa liberté comme il respecta la nôtre. Son histoire, si elle voit le jour, est aussi celle d'un aveu. Je ne comprends pas. Nous allons, par la voix de notre frère poète, vous avouer une faute commise par notre communauté il y a plus d'un demi-siècle. Par votre intercession, nous allons également rendre justice et redonner vie à celui que cette faute a protégé. Oui, nous sommes heureux, je dirais même soulagés, que vous ayez accepté de partager avec nous ce poids du secret que nous avons gardé durant si longtemps. Au repas pris en silence, je réfléchis à ces paroles dont je ne perçois pas tout le sens. Le soir, après la prière de compli, je les retranscris dans la nudité de ma cellule. Il y avait eu miracle en ce 12 novembre 1961. La tempête venue d'Écosse soufflait un vent glacé sur les côtes bretonnes, Norrois, force 10. Vers 5h30, le ciel s'était brutalement obscurci à l'ouest et le soleil avait émis un bref appel de détresse. On aurait dit qu'une pierre avait été roulée devant l'entrée du monde. Puis, le vent avait rendu la parole inutile et la mer était devenue blanche de colère. Maintenant, les hommes veillaient auprès des radios maritimes, sur les remparts des falaises, à la pointe des cales, dans la chaleur embuée des bistrots, et toutes leurs pensées convergeaient vers les puissants canaux de sauvetage, en attente de plonger du sommet de leur rail. Dans le ventre maternel des abers, les membrures des bateaux déroutés craquaient, et leurs mâtures chantaient un chant dément. Des quais du port de commerce, les noirs remorqueurs s'étaient élancés sur la mer d'Iroise comme des chiens de berger, machines rougies à blanc.
Thank you.
À voix haute, Meredith Ledez.
Il faisait bon cette nuit dans l'appartement, car mon père avait chargé la chaudière. Avec mes frères, on écoutait le vent. À Sainte-Reine de Bretagne, en Loire-Atlantique, frère Luc était encore loin de penser qu'un jour, il aborderait à Landévennec. Cela faisait 8 heures que l'homme nageait. Il avançait régulièrement. La tourmente le portait au sud avec le flot. Dans la nuit infernale, nulle pétrelle n'aurait pu le distinguer, nulle crave à bec rouge. Une immense solitude, pareille à celle des grandes villes, avait pris la mer où les faisceaux des phares ouvraient de brèves avenues de désolation. Il était vêtu de noir, de la tête masquée où se dressait un fin roseau, aux pieds largement palmés. À la croisée des vagues, il avançait d'un crawl puissant, se laissant parfois porter comme un bouchon. Anton n'avait de crainte ni dans son corps ni dans son esprit. Il devinait, davantage qu'il ne la suivait, sa route étrange. Dans l'obscur combat qu'il menait à la houle, de trop faibles lueurs parvenaient à son regard voilé, rares étoiles que le déchirement des nuages lui laissait entrevoir lorsqu'il se retournait, balises accrochées aux cornes monstrueuses de la tempête, et puis, au plus près de lui, serrée à son poignet droit, la phosphorescence de sa boussole. Il n'avait pas froid, car sa combinaison avait été testée dans les eaux glacées de l'Arctique, et le dernier repas qu'il avait pris à bord du chalutier diffusait sa chaleur dans son corps. Il s'était tant de fois entraîné qu'il était devenu minéral, mélange de liège et d'huile, sans autre pensée que celle de la mission. Et pourtant, cette nuit, voici qu'il éprouvait un sentiment. Un sentiment comme cela était rare, s'il l'avait appris. Car il ne devait pas penser, mais seulement obéir. Cela était né avec l'odeur d'un pays aimé d'avance, comme l'on désire un fruit défendu. L'odeur violente de l'écume, le remugle effrayant de la vie s'expurgeant. Parfum de congres et de rochers, assaut blanc d'une armée de 1000 coutiliers, de 1000 dents d'ivoire contre la vieille terre. Odeur d'aventure de la tempête, de ses routes noires et lumineuses et des étoiles qu'elle brassait. Il y avait aussi, plus subtil, la trace de la lande et des croix, des chemins creux et des arbres solitaires qui gardaient ce pays. Maintenant, il avait quitté le monde des livres et des calculs. Il pénétrait en Petite-Bretagne par la nuit et le vent, par l'aveuglement et l'assourdissement. Un courant géant le portait. L'ouragan glissait sur son corps aux muscles déliés, à la peau blanche enduite de graisse sous l'épaisse combinaison noire. Les craves et les grands corbeaux qui peuplaient les falaises ne distinguaient pas son mince sillage, ni le roseau noir qui était son cimier. Il progressait sur la charpente des remous, descendant l'arbre de la tourmente. Il était devenu l'un de ces poissons chasseurs qui remontent vers la côte en suivant le flot. La tempête était mère de ses rivages, des lochs et des abers et des rivières de Galles. Elle était un chêne qui s'abattait mais toujours renaissait des cimes des Orcades au socle de Galice. Et cela, Anton le sentait. Il sentait la fleur géante d'Ouessant et celle plus petite qui piquait l'archipel de Molène. Il sentait les croix et les pierres dressées et l'arrondi presque féminin de ce dur rivage. Il allait sur le filet des vagues, agissant et porté à la fois, franchissant des vallées et des crêtes, il allait au sud, il venait vers nous. Nageur de combat. En ces heures obscures, quand les vagues franchirent l'étroite passe séparant Léon et Cornouailles, elles étaient chevaux sauvages pénétrant dans un corral, et leur furie n'eut d'abord de cesse. De leurs balsanes d'écume se découvrant le temps d'un éclair, elles frappèrent les récifs des deux rivages, investissant de leurs yeux aveugles ce qui paraissait être le champ libre de l'océan. Mais au fond d'un canal qu'on appelait Goulet, elles chutèrent sur la longue digue abritant les vaisseaux de guerre. Puis la horde, déjà blessée par l'éperon des Espagnols, s'égaya sous les épieux des presqu'îles. Elle, qui ne connaissait que les espaces vides, découvrit la mâchoire prognate de la terre. Au premier cap, elle bondissait toujours, mais l'anneau de Crozon et le licol des rivières l'enserrèrent. Et même en cette nuit de fureur, elle parvint domptée tout là-bas au sud, au pied du monastère. Là, l'espace était rond et majestueuse la courbe dessinée par le dernier méandre de l'Aulne. Cela faisait comme une encolure soumise. Alors, la horde noire accepta lentement de s'apaiser sous la main rude du matin. Frère Jean avançait doucement sur la terre du jardin. C'était lui, le frère jardinier, le maître des légumes. La récolte des carottes et des betteraves avait été bonne, celle des choux se poursuivait. Il lui fallait maintenant préparer la terre pour les semis futurs. Sitôt après l'office de l'aude, quand se chante à l'aurore la louange du Christ ressuscité, lumière du monde, il s'était mis en tenue. Il aimait ce travail patient, cette marche d'insecte. Il ne lui semblait pas progresser, mais s'il se retournait, le chemin se lisait avec autant de clarté que les saintes écritures. Cela ressemblait à la marche des nuages certains jours d'été. Pour l'instant, ce n'était que l'automne et ses ombres. Plus tard, quand le jour serait devenu davantage qu'une simple brindille, il pourrait contempler le tissu brun de la terre au parfum de nuit, qui était à la fois l'empreinte de sa peine et de sa joie. Il avançait doucement, son gros soulier pesant sur la lame argentée. Il écoutait s'apaiser la tempête. Était-ce possible après ce qu'il avait entendu cette nuit? Mais la tempête elle-même n'était-elle pas une illusion? Nous sommes de la même étoffe que les songes, écrivait le grand Shakespeare. Le réel n'était pas plutôt ce jardin de paix? Le lieu saint se fondait à mi-pente du promontoire, sur le dernier méandre du fjord. Ici se mêlaient l'eau de la rivière et l'océan. C'était dans le tréfonds de l'abri marin, un immense territoire navigable où la mer faisait allégeance à la terre, même au matin de cette nuit d'épouvante. C'était là que vivait frère Jean depuis des années. C'était un jeune moine qui avait prononcé ses vœux à la fin des années 50, au moment de la reconstruction du monastère. Il était né dans le Maine, et c'est pourquoi l'image de la tempête soumise le traversait inconsciemment en ses premières heures du jour, comme l'un de ses chevaux, gracile ou massif, d'une immobilité de pierre, qu'il apercevait à Craon dans les prairies de son enfance. À l'image de la mer sauvage qui se calmait dans le ventre aimant de la rade, violence et paix faisaient partie du quotidien de frère Jean. Avec effort, avec violence à lui-même, il avait tout quitté pour ces lieux, sa famille, son pays, et jusqu'à son prénom. Mais il avait choisi en homme libre, et ne connaissait pas le regret. Cependant, chaque jour, il luttait contre l'ange déchu, et c'était peut-être là une des raisons de la prière, aider à vaincre le malin, aider à suivre le chemin étroit. Car le mal était ici malgré les apparences, comme l'avait dit le père abbé à la réunion du chapitre. Le mal était de tout lieu et de tout temps, et ces manifestations, si cruelles et surprenantes paraissaient-elles, n'étaient jamais que les scories d'un volcan sans cesse réveillé. Scories, le fer et le feu des hommes du Nord qui avaient rasé le lieu saint voici plusieurs siècles. Scories, les révolutions qui avaient installé ici le silence des cimetières. Scories, le péché dans le cœur même de Jean le Bénédictin. Et cendres aussi, les marins pêcheurs noyés pendant que lui dormait, et l'enfant du paysan écrasé deux jours auparavant, et frère Joseph qui se mourait, et la guerre qui prenait en ce temps-là beaucoup de fils aux fermes et aux maisons d'ici, et les armes entassées dans de mortelles cavernes sous la rive de Rosnoën, en face, à deux brasses de frère Jean. C'était pour tout cela qu'il fallait être dans la paix de Landévennec, et bêcher comme il faisait aux premières heures de ce 13 novembre 1961. Car chaque manifestation du mal était absolue, impérieuse la lutte à mener contre lui. Car la paix chaque jour devait venir au bout du travail, de la prière et du silence, devait venir à bout du mal. La paix, c'était celle de ce lieu qu'avait élu Guénolé le Saint, où les vents étaient calmes, où la mer montait en ce moment ses vagues devenues naines. Et lui, frère Jean, entendait la rumeur de la mer au travers des ramures et sentait ses parfums sauvages se mêler à l'odeur de l'humus. Il devinait sa couleur brune et grise par les lucarnes que l'automne avait percées dans les frondaisons et les signes que dessinaient les courants mêlés du flot et des rivières. Il entendit une grive chanter et se redressa. La marée remontait le chenal, il faisait presque tiède. La paix, elle était inscrite dans les murs même du monastère, dans ces pierres jaunes qui en faisaient une lumière. Elle s'inscrivait aussi dans la coque des bateaux de guerre. Ils venaient ici dormir, désarmés et sans nom, dans le dernier coude que faisait l'Aulne. C'était Le Nageur d'Aral, un roman de Louis Gral paru à la Manufacture de Livres. Et quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver samedi prochain pour une nouvelle émission à voix haute. Bon dimanche, bonne soirée.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.